Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent ce matin, que je n'ai pas encore eu le temps de saluer. C'est une joie de passer encore ce temps avec vous ce matin. Merci pour cette première partie qui nous a amenés à glorifier Dieu, à nous rappeler que Dieu prenait soin de nous dans notre passé, dans notre avenir, dans notre présent. Et en entendant ce qui nous a été partagé ce matin, je me rappelais ces paroles que j'aimais écrire à l'époque où je ne connaissais pas encore Dieu. J'avais un petit côté poète et il y avait cette phrase qui m'émerveillait toujours. « Aujourd'hui est un cadeau, c'est aussi pour cela qu'on l'appelle le présent. » Et j'ai trouvé cette phrase formidable et maintenant je sais qu'il nous donne ce cadeau et c'est ça qui la rend encore plus extraordinaire. Merci donc de nous avoir aidés à explorer les hauteurs. J'espère ne pas descendre de manière trop abrupte maintenant. Mais je vous propose pour commencer notre méditation un petit quiz. Et ceux qui ont médité le texte de ce matin auront un sérieux avantage, je pense. Peut-être qu'il y a des adeptes de questions pour un champion dans la salle, je ne sais pas. Ouais. Alors là, c'est la catégorie prêtre de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si elle est déjà tombée à question pour un champion, mais voilà, c'est notre texte biblique dans le chapitre 2 d'Agé qui commence par ce quiz. « Si un homme vient à toucher un cadavre et s'il touche ensuite d'autres choses, ces choses deviendront-elles impures ?» On vote ? Qui dit oui ? Oui ? Enfin, moi je ne vote pas. Hein. Qui dit non ? Il y en a qui ont osé, c'est bien. Et la réponse était oui. Vous avez ça dans le texte de ce matin. Deuxième question, elle est plus dure celle-là. Si un homme porte dans le pan de son vêtement de la viande issue d'un sacrifice à Dieu, et si ce vêtement vient à toucher d'autres aliments, est-ce que ces aliments deviendront saints, consacrés à Dieu pour autant ? Il y en a qui ont lu ce matin. Non, parce qu'en fait, c'est le seul passage qui donne la réponse dans la Bible. Il n'y a nulle part dans la loi, enfin, à ma connaissance, hein, peut-être qu'on me corrigera, mais allusion à ce type de question. Mais en effet, la réponse à cette deuxième question était non. Bon, mais vous êtes prêts pour devenir prêtre de l'Ancien Testament, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup encore de postes à pourvoir. Alors, avant de commencer la méditation du texte de ce matin, je vous propose juste de replacer un petit peu cela dans la perspective de notre journée d'hier, surtout peut-être pour ceux qui nous rejoignent. Donc depuis hier, nous réfléchissons à la gestion de nos priorités. Et hier matin, nous avions vu ce premier texte dans le livre d'Agé où Dieu reprenait son peuple parce qu'il avait mis de côté la reconstruction du temple, qui était pourtant la mission que Cyrus, un empereur païen, lui avait confié en le renvoyant à Jérusalem. Le peuple s'était attelé à la tâche, mais avait vite mis de côté cette priorité. Et nous avions parlé en effet de gros cailloux. Et nous avions dit que si je ne mets pas ce qui est prioritaire dans ma vie en premier, fatalement, ce qui est secondaire triomphe. Et hier au soir, on s'est réjoui dans un premier temps parce que pour une fois, dans l'Ancien Testament, la parole de Dieu porte un fruit de repentance parmi le peuple. Le peuple a écouté cette parole et il s'est remis à la tâche. Pourtant, le découragement a vite repris le dessus et on a eu ces paroles, ces promesses que Étienne nous a rappelées ce matin face au caractère modeste hein, de la construction qui s'élevait, qui ne ressemblait pas vraiment à ce que les anciens avaient comme souvenir du temple de Salomon, Dieu promet à son peuple que ce temple, pourtant, aura une gloire supérieure à celle de Salomon. Et nous avions médité cette idée forte que nous ne devons pas uniquement nous baser sur notre vie, nos sentiments, nos ressentis, mais que nous devions apprendre à voir comme Dieu voit lui-même les choses. Et ce matin, nous allons continuer cette méditation et cette réflexion autour de la gestion des priorités. On est parti un peu de l'aspect de nos activités. On a commencé à se dire, attention, il ne faut pas juste regarder quelle place telle activité a dans mon emploi du temps, mais aussi essayer de rentrer dans la perspective de Dieu. Et ce matin, nous allons descendre encore d'un cran et venir dans nos propres vies pour voir quel est cet obstacle qui nous empêche tant de voir les choses comme Dieu les voit lui-même. Et je vous invite donc à prendre vos Bibles dans le livre d'Agée, au chapitre 2. Nous poursuivons, terminons notre lecture ce matin. Nous lisons dans un premier temps les versets 10 à 19. Et nous conclurons un peu plus tard par les derniers versets. Agée, chapitre 2, versets 10 à 19. Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, la parole de l'Éternel se révéla par Agée le prophète en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Propose au sacrificateur cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, seront-elles sanctifiées ? Les sacrificateurs répondirent « Non ». Et Agée dit « Si quelqu'un, souillé par le contact d'un cadavre, touche ces choses, seront-elles souillées ?» Les sacrificateurs répondirent « Elles seront souillées ». Alors Agée, reprenant la parole, dit « Tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel. Telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'il m'offre là est souillé. Considérez donc attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, avant qu'on ait mis pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé pour tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'au 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez-le attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers ? Même la vigne, le figuier, le grenadier et l'olivier n'ont rien rapporté. Mais dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. Jusque-là, la lecture pour l'instant. Notre texte commence par un choc culturel. Hein ? Les questions au sacrificateur nous laissent peut-être un peu pantois ou de marbre, un écho à des réalités que nous ne connaissons que très peu, et j'avoue avoir lu 5 ou 6 fois ce verset 12 avant de commencer un peu à comprendre de quoi il s'agissait. Les Israélites, vous le savez, avaient pour habitude d'offrir des sacrifices d'animaux à Dieu pour le pardon de leurs péchés. Et pour que ce sacrifice soit agréé, il fallait que l'animal soit pur, c'est-à-dire sans défaut. Et grâce à ce sacrifice d'innocents, la faute des Israélites pouvait alors être expiée. Leur dette envers Dieu était soldée. Et la viande des victimes, donc de ces animaux, offerte sur l'autel des sacrifices, était ensuite mangée en partie par les Israélites eux-mêmes. Une partie revenait aux sacrificateurs, mais eux aussi, parfois, prenaient cette viande pour la manger. Et ils devaient alors l'emporter dans leur pan de leurs vêtements et aller sur un endroit du temple, sur le parvis, pour finir de manger cet aliment. Et c'est pour cela qu'il y a cette fameuse question qui est posée. Est-ce qu'après avoir donc sacrifié cette viande à l'Éternel, en emmenant cette viande et en allant la manger autre part, est-ce que tout ce qu'ils allaient désormais toucher allait être sain ? Et comme je vous l'ai dit, on est heureux que les prêtres répondent à la question là, parce que sinon j'aurais été plus embarrassé pour répondre. Je n'ai trouvé nulle part autre part dans la loi écho à une telle question. En gros, la question et l'enjeu qui est là derrière, c'est est-ce que la sainteté, l'aspect consacré, est transmissible? Est-ce que la sainteté, le caractère consacré, est transmissible? Et la réponse est non. La seconde question, elle, nous est plus familière. Peut-être vous l'avez déjà entendu quand on prêche notamment sur la parabole du Samaritain. On voit le Lévite, on voit le prêtre passer devant cet homme à demi-mort dans le fossé et on s'étonne un peu qu'ils passent leur chemin sans s'arrêter et les commentateurs nous aident à comprendre que un des problèmes pour eux, c'est que si cet homme était réellement mort, qu'il s'était arrêté, qu'il l'avait touché, eh bien ils auraient été exclus du sacerdoce, de leur fonction de prêtre et de Lévite pendant une semaine parce qu'à partir de ce moment-là, tout ce qu'ils auraient touché aurait été impur. Alors, Jésus condamne le caractère religieux, l'hypocrisie religieuse et le fait de privilégier la dimension religieuse à l'aspect de prendre soin de son prochain, mais il n'empêche qu'on comprend mieux l'enjeu qui est là derrière dans la parabole avec cet aperçu là derrière. Et là, l'idée est donc de savoir, est-ce que le caractère impur est transmissible ? Et la réponse est oui. Et c'est toute la réflexion pour nous ce matin entre le pur et l'impur. Mais pourquoi donc Dieu parle de cela à ce moment-là dans le livre d'Agée ? Et c'est la suite du passage à partir du verset 14 qui nous aide à comprendre. Agée souligne que les sacrifices n'ont pas cessé pendant toutes ces années où le peuple a mis de côté la reconstruction du temple. Il semble bien que l'autel des sacrifices avait donc été rétabli dès le retour du peuple d'exil en Israël et qu'ils avaient donc repris le caractère religieux du culte israélite et offert des sacrifices. Mais Dieu invite les Israélites à méditer ce qu'il s'est passé, à considérer leur voie, la manière dont Dieu a répondu. Faible récolte, intempérie, maladie. Tout cela parce que le peuple, c'est le texte qui nous le dit, ne s'est pas soucié de la reconstruction du temple. Il avait refusé d'obéir à Dieu qui avait donné explicitement l'ordre de le faire. Alors voilà ce qu'Agée est en train de dire au peuple de Dieu. Tout comme un aliment sain ne rend pas sain les autres aliments, les sacrifices pour obtenir le pardon des péchés n'ont pas été efficaces pour purifier le peuple de sa désobéissance. Ce n'est pas parce qu'il offrait ses sacrifices d'un côté qu'il était purifié du caractère intentionnel, endurci, de ne pas obéir à la volonté de Dieu qui était à ce moment-là de reconstruire le temple. Pour parler en langage gros caillou, c'est très bien d'avoir mis les sacrifices rituels en premier dans le bocal, mais ce n'était pas suffisant. Encore fallait-il avoir une attitude cohérente avec ces sacrifices et regarder les choses à la manière de Dieu. La priorité était de reconstruire le temple. Et en fait, c'est donc tout le contraire qui s'est produit. Et le résultat, le moins qu'on puisse dire, a été catastrophique. Comme un homme impur rend impur tout ce qu'il touche, le refus d'obéir à Dieu a rendu impur toutes les initiatives du peuple. C'est pourquoi il a attiré cette conséquence divine sur les récoltes, sur les intempéries, les maladies, dans toutes ses réalisations. En résumé, si on mélange le pur avec l'impur, c'est le pur qui devient impur, d'après ce que nous venons de méditer jusqu'à présent. Le péché, c'est toxique. Les effets du péché ne sont pas toujours immédiats, mais le péché est toxique. Il ressemble à un venin qui coule dans nos veines et nous ronge de l'intérieur. Et que le corrompu gangrène ce qui est consacré, ça n'est pas uniquement un dogme biblique. C'est quelque chose que l'on peut se rendre compte dans notre quotidien, dans ce qui nous entoure. Je pense à l'incroyable scandale qui a eu lieu il y a quelques années autour de ce cycliste bien connu, Lance Armstrong. Lance Armstrong avait donc gagné 7 Tours de France en affirmant respecter les règles du dopage. Et quelques années après sa retraite sportive, il s'est vu retirer ses 7 titres car il a finalement reconnu avoir triché pendant toutes ces années. C'est pas là-dessus que je veux insister. Du temps de sa gloire, ce sportif gagnait beaucoup d'argent et il utilisait une bonne partie de cet argent pour des œuvres caritatives. Il avait notamment été atteint d'un cancer et donc il finançait en tant que mécène nombre d'œuvres qui luttaient contre le cancer. Tant que le sportif était reconnu comme éthiquement pur, ses œuvres de bienfaisance recevaient l'approbation. Alors, peut-être moins en France, où on a toujours eu un côté un peu refus de sa personnalité, mais en tout cas aux États-Unis, où il y avait cette image d'un sportif, l'image du héros américain par excellence, qui se prive d'une partie de ses revenus, qui ne pense pas qu'à lui-même, et qui essaie de faire le bien autour de lui en étant justement généreux avec ses œuvres caritatives. Mais ce qui est intéressant de constater, c'est ce qui s'est passé une fois son coming out réalisé. Lance Armstrong était déclaré coupable et toute sa générosité ne pouvait plus rien y changer. Au contraire, les sacrifices consentis dans ses revenus ne compensaient pas, n'atténuaient pas la gravité de ce qu'il avait commis. Il n'y avait pas un transfert de pureté de ses œuvres sur son équité sportive, sur son éthique sportive. Bien plus, les œuvres de bienfaisance qu'il soutenait ont exigé de ne plus être associées à l'image de Lance Armstrong. Elles lui ont demandé de quitter les postes honorifiques qu'il occupait, ou alors elles ont cessé d'associer son image dans leur communication. Bien qu'il leur ait donné beaucoup d'argent, cela devenait un problème pour ses œuvres de charité. Elle se sentait comme polluée par le mensonge et la tricherie de ce sportif. C'est un peu la même idée que ce que j'ai essayé de développer dans un caractère un peu plus moderne de ce qui se passe dans ce texte-là. Ce qui est impur pollue même les brins de pureté que nous pouvons avoir dans nos vies. Tant que le problème de l'obéissance n'est pas réglé dans nos vies, ce qui pourrait, un tant soit peu, nous rendre agréables à Dieu, a une odeur cramoisie. C'est Ésaïe qui dit « Nous sommes tous semblables à des êtres impurs. Toute notre justice est comme des linges souillés. Nous sommes tous flétris comme un feuillage. Nos fautes nous emportent comme le vent. » Et c'est pourquoi la Bible dénonce à tant de reprises l'hypocrisie religieuse de ceux qui s'approchent de Dieu en pensant pouvoir l'acheter sur la base de leur religiosité, sur la base de leur sacrifice. Dieu dit ne pas y prendre plaisir parce que ce qu'il réclame, c'est un cœur contrit, un cœur vrai, transformé en profondeur. Tel est ce peuple. Telle est cette nation, dit l'Éternel. Telles sont leurs œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrent là est souillé. L'homme est impur. Tout ce qu'il offre ne peut qu'être impur. Il ne peut compenser son incapacité à répondre aux exigences de Dieu par une dévotion religieuse. Alors, quelle solution préconise Agé ? Et là, le verset 19 est encourageant, de prime abord. Dieu termine, à travers son prophète, son exhortation en disant « Vous avez vu comment les choses se sont passées pendant toutes ces années où vous avez refusé de reconstruire le temple ? Eh bien, considérez attentivement ce qu'il va se passer désormais. Dès ce jour, je répandrai ma bénédiction. » puisque vous avez repris le chemin de l'obéissance en reprenant les travaux, eh bien je répandrai à nouveau ma bénédiction sur vous. Cool, chouette, la bénédiction suit l'obéissance. On n'est pas loin de la culture de l'immédiateté que je dénonçais hier. C'est bien, hein, là. Je fais de nouveau ce qui plaît à l'Éternel et la bénédiction arrive dans ma vie. S'il faut relever le caractère encourageant du verset 19, il ne faut pas oublier tous les autres versets du livre d'Agé. Et pour ceux qui sont attentifs aux indices temporels, vous n'aurez pas... C'est pas moi qui l'ai vu, hein, j'ai lu ça dans des commentaires, mais quand même, c'est intéressant. Vous n'aurez pas manqué de remarquer que si le peuple s'est remis au travail le 21e jour du 7e mois, l'encouragement de Dieu, lui, n'est arrivé qu'au 24e jour du 9e mois. 7e mois, 9e mois, bon, 2 mois, vous me direz, c'est pas mal comme mise à l'épreuve, mais ça casse pas des briques, hein. On peut bien attendre 2 mois avant de recevoir la bénédiction de Dieu. Juste le temps de s'assurer que c'est réellement un fruit de repentance qui s'exprime là. Mais c'est en fait un peu plus compliqué que cela. Là, je fais appel à votre bon sens paysan. Combien de fois a lieu les moissons dans une année ? A priori, une seule fois, généralement. Bon, ça dépend de quelques récoltes, mais voilà. On va dire que généralement, les moissons ont lieu une seule fois. Et les moissons ont lieu à quelle période dans le calendrier juif ? Au 7e mois. Ce qui veut dire qu'au 9e mois, la période des moissons était terminée. Ce qui veut dire que la promesse n'était pas pour l'année en cours, mais pour l'année à venir, et qu'il fallait encore attendre un an avant de pouvoir bénéficier de l'embellie due au retour à l'obéissance à Dieu. Considérez attentivement ce qui s'est passé jusqu'à ce jour, et faites bien attention à ce qui va se passer maintenant. Dieu a maintenu les conséquences du péché de son peuple pendant toute la période de récolte. Il promet la bénédiction, mais pour l'année à venir, une bénédiction en espérance, une bénédiction qui fait à nouveau appel à la foi. Dieu propose de mettre nos engagements, nos décisions, à l'épreuve du temps et de la persévérance. Pas besoin que lui, enfin, c'est pas qu'il ait besoin, lui, de vérifier l'authenticité de nos résolutions, mais il nous propose, nous, de nous laisser éprouver par le temps, par l'espérance de ses promesses, par la marche, par la foi. Et c'est pourquoi on a ce refrain, hein, tout au long du livre d'Agé. Considérez vos voies, réfléchissez à ce qui vous arrive, considérez attentivement ce qui va vous arriver, et regardez votre bocal, qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous l'avez sans doute remarqué, et surtout ceux qui ont plus d'expérience que moi, c'est dans l'épreuve, dans la disette, que nous nous alignons le plus radicalement sur la vision du monde de Dieu. C'est dans ces moments que nous pouvons considérer nos voies avec attention et décider fermement de ne plus suivre nos propres voies, mais les siennes. Nous nous attachons alors à Dieu pour lui-même et non plus pour la bénédiction qu'il va nous apporter. Nous ne sommes plus troublés par ce qui est secondaire, car généralement dans ces périodes difficiles, dans notre bocal, il n'y a plus que les gros cailloux de ce qui compte aux yeux de Dieu. Pas facile comme message ce matin. D'abord, notre incapacité à rendre pur ce que nous faisons. Ensuite, un appel à faire confiance en Dieu, même quand rien ne se passe. Il n'y aurait pas un message plus encourageant pour finir notre livre d'Agé ? Frères et sœurs, le livre d'Agé nous parle d'un peuple qui se repent, formidable, et qui décide d'obéir à Dieu. Mais pour celui qui lit attentivement la suite des événements, il sait que malheureusement, les mêmes causes ont produit les mêmes effets. Il a fallu à nouveau que Dieu réveille Néhémie, quelques décennies plus tard, pour que, à nouveau, la reconstruction, cette fois-ci plus du temple, mais des murailles de Jérusalem, reprenne. Il semble bien que le peuple ait à nouveau mis de côté la priorité de Dieu dans sa vie. Généralement, les projets nous enthousiasment, nous donnent un coup de fouet dans notre foi. On connaît hein, ces événements encourageants qui nous électrisent. Mais combien il est plus difficile de persévérer dans la durée. J'espère que ce que nous vivons hein, ici pendant ce week-end ne sera pas un feu de paille, mais quelque chose que nous pourrons éprouver dans la durée, dans notre retour dans la plaine. Un de mes collègues pasteurs que je fréquente en région parisienne, quand on lui demande si c'était un bon culte ce dimanche, s'il pensait que la prédication avait été pertinente, a pris l'habitude de répondre « On verra ». On verra si cela produit des transformations, si les cœurs s'approchent de Dieu, s'ils produisent les fruits de la repentance. On verra si c'était un bon week-end, mais pas tout de suite. Alors face à notre instabilité humaine, notre manque de cohérence, notre manque de discernement, n'y a-t-il pas pour nous une plus grande assurance? Parce que jusqu'à présent, ce matin, le constat c'est que, en regardant de mon côté à moi, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Le péché me colle à la peau. Je n'arrive pas à m'en défaire. Il n'y a pas de solution en moi-même. Je suis impur et je reste impur. Pourtant, il y a bel et bien une bonne nouvelle pour nous ce matin. C'est qu'Agé ne se termine pas au verset 19, mais au verset 23. Et je vous invite à lire ces versets pour à nouveau tourner nos regards vers Dieu, le seul qui peut nous donner une plus grande assurance quant à notre persévérance. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé le 24e jour du mois en ces mots. « Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis « J'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations. » Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je prendrai Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Un appel à tout miser sur Dieu. La promesse s'adresse dans un premier temps au gouverneur de l'époque, Zorobabel. Il est question de ce que Dieu va faire avec lui. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui dépasse le cadre même de Zorobabel. J'ébranlerai le ciel en ces jours-là, j'ébranlerai le ciel, j'ébranlerai la terre. Je renverserai les trônes des royaumes. J'anéantirai la puissance des païens. La promesse est que Zorobabel ne subira pas le sort des autres nations. Dieu promet une victoire totale sur les adversaires de son peuple. C'est un moment particulièrement émouvant parmi toutes les promesses que l'on trouve dans la Bible. Pourquoi cela? Eh bien parce qu'elle annonce que Dieu n'en a pas fini avec ses promesses. Une crainte que le lecteur attentif de l'Ancien Testament pourrait avoir. Parce que si on reprend le fil des événements dans la révélation progressive de Dieu, comme on l'a entendu hier, eh bien, on pourrait être inquiet quant au plan de salut de Dieu. Parce qu'avant l'exil, il s'est passé un événement terrible. Il y a certes eu l'exil, mais il y a eu aussi comme un abandon de la promesse de Dieu. Alors que Dieu avait promis à David d'établir son trône pour toujours sur Israël, Dieu a interpellé le dernier roi de Juda avant l'exil en lui disant « À cause de tes désobéissances, aucun de tes descendants ne sera désormais sur le trône. » Vous avez ça dans le livre de Jérémie au chapitre 22. On a cette impression avant l'exil que trop, c'est trop. Trop souvent, le peuple a désobéi. Trop souvent, le peuple, après s'être remis dans la droite marche, a fini par retomber. Et on a l'impression que Dieu en a marre, que c'est terminé maintenant, et qu'il laisse de côté sa promesse. Et c'est ça la bonne nouvelle de ce matin. C'est que malgré l'exil, malgré ce moment traumatisant dans l'histoire d'Israël, Dieu n'en avait pas fini avec sa promesse en interpellant Yehoiakim, ce dernier roi de Juda. Non, il continue encore et toujours à vouloir accomplir son plan de salut. Et il choisit Zorobabel, a priori pas le descendant le plus direct de Yehoiakim, mais pourtant un descendant de Yehoiakim et à travers lequel il va accomplir son plan de salut. Il n'y aura plus de roi sur le trône de Juda, mais ça n'empêchera pas Dieu d'accomplir sa promesse et d'anéantir tous ceux qui s'opposent à son plan de salut. Cette victoire interviendra, vous l'avez compris, plusieurs centaines d'années plus tard, par l'arrière, arrière, arrière, petit-fils de Zorobabel, Jésus-Christ. On trouve Zorobabel dans la généalogie de Jésus, dans l'évangile de Matthieu. Par le sacrifice de Jésus, Dieu répondra et donnera une réponse définitive à ce problème récurrent du péché qui nous entraîne toujours plus. Le péché sera payé une fois pour toutes, mon péché. Et nous nous en sommes rappelés tout à l'heure par cette sainte scène, a été payé à la croix. Désormais, malgré mes désobéissances, je suis déclaré pur si je me confie pleinement à Dieu. Mes fautes ont été payées à la croix. Au lieu que mon impureté se propage sur tout ce que je fais, Dieu me promet que la toxicité de mon péché est stoppée net par le sacrifice de Jésus. Au lieu de voir tout ce qui est impur en moi, si je me confie en Jésus, ce n'est plus mon impureté qu'il voit en premier, mais le vêtement blanc par lequel je suis revêtu. Avant de me voir moi, il voit Jésus, son Fils. Est-ce pour autant un passeport pour le péché ? Est-ce que la grâce me donne cette permission de désobéir à Dieu et de suivre mes propres voies ? Non. La grâce, c'est cette réponse de Dieu, cette puissance de l'obéissance pour ma vie. C'est en regardant toujours plus à la croix, en méditant toujours plus par quel grand amour Dieu m'a aimé, que je découvrirai cette puissance qui agit en moi et qui me pousse à obéir à Dieu et à ne plus suivre mes propres voies. Alors, au moment de refermer le livre d'Agée, je vous propose trois défis ce matin. Premier défi, devant la toxicité du péché et en écho à la question des priorités, faisons de notre sainteté la priorité absolue de nos vies. La priorité des priorités, c'est ma pureté ou la place du péché dans ma vie. Tant que je ne prends pas au sérieux que c'est ce péché qui me pollue, qui m'empêche de voir le monde tel que Dieu le voit, je serai incapable de grandir dans ma marche avec Dieu et de faire les bonnes priorités dans ma vie. Une image pour bien comprendre l'ampleur ou l'importance de prendre au sérieux cette question du péché, c'est cette image là-haut à droite. Et là, les fans de foot devraient s'y retrouver, quoique la plupart des fans de foot de cette salle n'ont certainement pas connu cette Coupe du Monde 1966. Là, je fais appel aux anciens. où l'équipe de la Rose a gagné sa première Coupe du Monde, l'Angleterre, sa dernière aussi. On n'a pas fait mieux, hein, donc on ne peut pas vraiment se moquer. C'est pas ça le point. En pays natal, l'équipe d'Angleterre a gagné après d'épiques prolongations, pour ceux qui s'en rappellent, et toujours une polémique, est-ce que le troisième but de l'Angleterre, alors qu'il y avait 2-2, était bel et bien rentré dans les buts, a donc gagné une Coupe du Monde, et le capitaine de l'époque s'appelait Bobby Moore. Et voilà le point que j'aimerais souligner. La Coupe du Monde avait lieu en Angleterre. C'était donc la reine Elisabeth qui devait remettre la Coupe du Monde. Et la reine Elisabeth II, comme à son habitude, était vêtue de ses gants blancs immaculés. Et c'est vraiment intéressant de voir le dilemme qui a préoccupé Bobby Moore après avoir gagné la Coupe du Monde. Il venait de livrer un match épique. On imagine le terrain boueux en Angleterre. Il était sale. Il avait les mains pleines de boue. Le t-shirt et le short aussi. Et son problème, c'était ce moment où il allait devoir serrer la main de la reine d'Angleterre et d'imaginer salir les gants blancs de la reine Elisabeth II. Grand dilemme pour Bobby Moore. Et les images de l'époque le montrent en train d'essayer d'essuyer ses mains dans son t-shirt, dans son short. Il y avait même un grand tapis vert qui menait jusqu'à la Coupe du Monde. Vous savez, hein, ces grands tapis où il y a et la récompense. Et il essaye de frotter ses mains sur le grand tapis pour pouvoir se présenter devant la reine d'une manière convenable. Il n'a pas réussi, je crois. Ce que j'aime relever dans cette image, c'est sa préoccupation. Sa préoccupation, même après avoir remporté le prix, de se présenter devant la reine Elisabeth II, pure et propre. Dans notre réalité à nous, nous n'avons pas à nous présenter devant une reine, mais devant Dieu, le roi du ciel. Est-ce que nous avons la même préoccupation à nous présenter devant lui, pure, en ayant compté pleinement sur le sacrifice de Jésus-Christ pour nous purifier? Mon deuxième défi, c'est que si le péché est toxique, la repentance, elle, est fantastique. C'est elle qui, en quelque sorte, produit cette arénette de propagation de mon impureté dans ma vie. Confronté à mon péché, il ne faudrait pas me tromper de solution. Ma tendance naturelle, c'est de diminuer les exigences de Dieu, d'essayer de camoufler mon péché en disant « Est-ce que Dieu a réellement dit ça ?» Ce n'est pas la manière dont Dieu me propose de me présenter pur devant lui, mais en étant toujours plus réaliste avec mon péché et en comprenant toujours plus ce qu'il en a coûté à Jésus pour que je puisse être sans tache ni trace de boue pour lui serrer la main. Voilà la repentance. Dans ce texte, nous avons affaire pour l'une des rares fois de l'Ancien Testament à un peuple qui se repent. Un peuple qui arrête de regarder la vie selon ses critères à lui. Se repentir, c'est devenir vrai et avouer tout simplement la réalité de ce que l'on est. C'est devant Dieu que mon bilan est véritable. Devant la toxicité du péché, adoptons la perspective de Dieu et faisons de notre sainteté une priorité. Le péché, c'est toxique. Mais la repentance, c'est fantastique. Alors ne nous privons pas. Troisième défi, eh bien, c'est tout simplement de mettre ces deux gros cailloux, la priorité de la pureté, la place de la repentance, dans mon bocal. Alors, il est probable que la gestion de mes priorités s'éclaire grandement. Une des manières de résumer tout ce que nous avons vu tout au long de notre ensemble ce week-end pour être ceci. Voir clair sur moi-même, pour faire confiance à Dieu plutôt qu'en mes propres voies, afin de laisser agir la puissance de Dieu qui me conduira, c'est sûr, à une plus sage gestion de mes priorités. Voir clair sur moi-même pour faire confiance à Dieu plutôt qu'à mes propres voies, afin de laisser agir en moi la puissance de Dieu qui gérera alors au mieux mes priorités. Et je vous laisse avec ces réflexions.